Alexandra Ben Saïd, votre invité ce matin est le PDG d'Ariane Espace.
Bonjour Stéphane Israël.
Bonjour.
Ce jeudi 24 décembre, une fusée Ariane 5 va décoller de Guyane. Elle emporte l'objet spatial le plus cher, le plus attendu et le plus prometteur jamais mis en orbite. C'est le télescope américain James Webb. D'abord, Stéphane Israël, il faut que vous nous donniez une image. Comment est-ce qu'on peut se le représenter? C'est un origami, mais grand comme un terrain de tennis.
Oui, effectivement, vous l'avez dit, avec des panneaux solaires qui sont recouverts d'or. Donc c'est un très très bel objet. J'invite d'ailleurs vos auditeurs à aller regarder cet objet. Il y a beaucoup de photos sur Internet. Il y a un certain nombre de panneaux. Il y a une protection thermique. Et effectivement, Webb va accomplir quelque chose d'absolument fantastique. Webb va être 100 fois plus puissant que son prédécesseur Hubble. Grâce à l'imagerie infrarouge, il va pouvoir capter plus de 70% de lumière en plus. Et Webb, c'est une machine à remonter le temps qui va nous rapprocher du Big Bang il y a plus de 13 milliards d'années. Et faisant cela, on va mieux comprendre et mieux percer les secrets de l'univers.
C'est un objet à 10 milliards de dollars. C'est une saga de 20 ans, mais Webb n'a une durée de vie que de 5 ans.
Voilà, à peu près 5 ans. Alors parfois, la durée de vie est supérieure à ce qu'on anticipait. Il a effectivement une durée de vie de 5 ans et les grandes agences vont avoir des créneaux réservés pour Webb. L'agence spatiale européenne qui est à bord va avoir droit à certaines images. Elle va notamment regarder les exoplanètes. Vous savez qu'il y a beaucoup d'exoplanètes, il y en a
en
des milliers.
Du système solaire,
et
oui.
On va aller regarder s'il y a des soupçons de choses qui permettraient la vie sur les exoplanètes. Donc après Webb, on ne regardera plus jamais le ciel comme avant.
Bon, on a compris que c'est un enjeu exceptionnel pour Ariane Espace, un lancement comme ça. Si tout se passe bien, et là je parle à celui qui commercialise ce service de lancement, de mise en orbite, on pourra dire que 2021, ça a été une bonne année pour les Européens?
Oui, alors effectivement, on va attendre cette semaine, puisque nous avons Webb à lancer. Nous avons ensuite, depuis la Russie, une dernière mission pour OneWeb. Si tout se passe bien, nous
aurons... OneWeb, c'est la constellation
OneWeb,
de satellites.
OneWeb, c'est une constellation en orbite basse. Si tout se passe bien, nous aurons réalisé 15 lancements cette année. 15, c'est une des plus grosses années d'activité d'Ariane Espace. Et effectivement, on va attendre ces derniers jours pour pouvoir célébrer cette année.
Ça peut se passer mal.
Écoutez, ce qui est important, c'est qu'au moment du décollage, on ait tout fait pour que la mission soit un succès. Cette mission, nous la préparons depuis 20 ans, avec les ingénieurs d'Ariane Espace et d'Ariane Group, avec toute la chaîne industrielle européenne, avec l'Agence spatiale européenne, avec la NASA que nous avons impliquée dans nos process. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand ce lanceur décollera, nous aurons tout fait pour que la mission se passe bien.
Bon, là, on a compris, on parle d'une belle aventure, c'est de la science, c'est de la coopération européen-américain. Mais dans l'espace, il y a aussi, depuis quelques années, beaucoup de commerce et une guerre pour le marché des constellations de satellites de télécommunications dont on vient de parler. Et là, sur ce marché, les multimilliardaires américains, les Elon Musk avec SpaceX, les Jeff Bezos, en fait, ils nous taillent des croupières.
Alors, le principal compétiteur d'Ariane aujourd'hui et d'Ariane Espace, c'est un acteur américain qui s'appelle SpaceX. Et effectivement, ça n'est pas un scoop.
C'est Elon Musk, le patron de Tesla aussi.
Absolument. Et l'une des particularités de SpaceX, enfin, il y en a plusieurs. La première, c'est que il y a des financements institutionnels américains très importants. Ce sont des milliards qui sont dépensés chaque année par la NASA, par l'US Air Force pour donner des missions à ce lanceur. Et l'autre particularité, c'est qu'il travaille pour son propre compte. Il lance pour lui-même. Cette année, il a fait 17 missions pour sa constellation. Il verticalise le secteur. Il construit, il lance, il opère. Un satellite sur deux de plus de 50 kilos au-dessus de votre tête appartient à Elon Musk. Ça fait réfléchir.
Alors ce qui fait réfléchir aussi, c'est qu'il a parié, puisqu'on parle de cet homme Elon Musk, sur une technologie, la technologie des lanceurs réutilisables. Et nous n'y avons pas cru. Certains Européens, du coup, choisissent SpaceX pour lancer parce que ça coûte moins cher. Et l'Europe spatiale a, vous le dites, un budget 4 fois moins important que les États-Unis. Est-ce que pour nous, elle est déjà perdue, cette bataille?
Cette bataille, elle est tout sauf perdue. Et cette bataille, nous allons la gagner. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand nous avons pris la décision d'Ariane 6 il y a quelques années, le cahier des charges, c'était d'arriver avec un nouveau lanceur le plus vite possible. Nous n'avions pas les technologies qui nous auraient permis de faire d'emblée un lanceur réutilisable. En revanche, on a décidé avec Ariane 6 de faire une grosse fusée, très capacitaire, et il se trouve qu'elle va aller accrocher le marché des constellations. Et je peux vous dire que quand Ariane 6 aura volé, elle va très vite être ras la gueule parce qu'elle va empocher beaucoup de contrats pour les constellations. La deuxième chose, si je puis me permettre, c'est que la compétitivité d'une fusée, c'est l'organisation des pouvoirs publics autour d'elle, c'est le fait que l'Europe ait envie de la soutenir. Et cet été, l'Agence spatiale européenne, et avec une très forte impulsion de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, a décidé de soutenir Ariane 6, de soutenir sa commercialisation. Donc ce sera un grand succès. Et puis après, on va préparer la suite.
La suite, c'est donc la technologie des lanceurs réutilisables. Alors, Ariane 6 2022, mi-2022. Et vous dites qu'en fait, on est en train de prendre de l'élan.
Alors, on est en train de faire deux choses. C'est la stratégie du marché sur ses deux jambes. L'autonomie d'accès de l'espace, de l'Europe à l'espace, pour la décennie en cours, c'est Ariane 6. Complété par le lanceur Vega. Et puis, effectivement, dès 2016, on a commencé à travailler sur un moteur à poussée variable qui est potentiellement réutilisable. On a plus récemment investi dans une récupération d'étages, une démonstration de récupération d'étages. Et donc, lors de la prochaine décennie, il y aura une nouvelle famille de lanceurs européens qui, si les volumes le justifient, sera réutilisable.
En attendant, on est dans une bataille de compétitivité avec quand même une contrainte sur les budgets. Ça veut dire qu'il y a et qu'il y aura des conséquences sociales. Ariane Group a déjà annoncé près de 600 suppressions de postes.
Alors effectivement, Ariane Group, c'est la maison mère d'Ariane Espace. Nous sommes le bras armé commercial et opérationnel et nous achetons les fusées à Ariane Group qui est notre maison mère et premier actionnaire. Ariane Group a fait un plan de compétitivité avec effectivement, pour être très précis, 588 suppressions de postes. Ce que je veux dire au nom d'Ariane Group, c'est que cela s'est passé dans un dialogue social exemplaire. Trois syndicats ont signé l'accord sur la rupture conventionnelle collective. Il n'y aura pas de licenciement économique jusqu'à la fin de 2022. Il y aura une préservation des compétences. Et on est effectivement dans ce moment de recherche de compétitivité. Mais Ariane Group a eu un souci social tout à fait exemplaire.
Stéphane Israël, si l'Europe veut voir loin, vous avez dit, là, il y a eu un signal d'alarme. Ça y est, on a pris un tournant, on change de stratégie. Mais est-ce qu'on doit aller encore plus loin? Est-ce qu'on doit, par exemple, envoyer des touristes dans l'espace, comme font les Américains? Est-ce qu'on doit faire du vol habité?
Alors, le vol habité, certainement, ça serait très intéressant. Ça me paraît plus intéressant que ce que j'appelle, ou ce qu'on appelle le tourisme spatial, parce que l'expression même pourrait montrer que c'est quelque chose d'un peu superflu. En revanche, le vol habité, c'est aujourd'hui la pièce manquante dans la stratégie des Européens. Nous savons tout faire. Nous savons construire tous les types de satellites. Nous savons lancer tous les types de satellites. Il n'y a qu'un objet, ou plutôt un sujet qu'on ne lance pas, ce sont des hommes ou des femmes. Et effectivement, il y a un vrai engouement pour le vol habité. On le voit avec la mission de Thomas Pesquet. Et ce que nous disons, c'est que s'il y a une volonté politique, s'il y a une mobilisation budgétaire, nous pouvons, nous les Européens, être au rendez-vous d'un vol habité depuis Kourou avant la fin de la décennie.
Alors vous parlez de Thomas Pesquet et de la Station Spatiale Internationale. Il y a un mois, je voudrais qu'on parle un peu de régulation. Il y a un mois, les astronautes ont dû préparer l'évacuation parce qu'il y avait une pluie de débris. On comprend que tout s'accélère, que des dizaines de milliers d'objets flottent au-dessus de nos têtes, mais qui fait le ménage dans tous ces vieux objets, dans tous ces satellites? Qui décide d'ajouter toujours plus de satellites au-dessus de nos têtes? Est-ce que là-haut, Stéphane Israël, c'est toujours le Far West?
Nous avons besoin d'un espace responsable et durable et effectivement pas d'un espace Far West. Et effectivement, il y a à la fois des rivalités entre les puissances avec cette démonstration qu'ont fait les Russes qui ont détruit un satellite qui a généré des débris. Avant eux, les Chinois l'avaient fait, les Indiens l'avaient fait. Et on peut pas dire effectivement que ce soit tout à fait des comportements exemplaires. Mais aussi, il va y avoir de plus en plus de satellites en orbite basse avec les constellations que j'ai évoquées. Et pour ça, on a besoin d'une régulation internationale. On a besoin que le G7 se saisisse de ce sujet. Il a commencé de le faire. Que les Nations Unies aient peut-être une compétence universelle. Il faut s'assurer qu'on puisse partir dans l'espace de façon accessible et qu'on soit pas bloqué au sol parce qu'il se passe trop de choses là-haut. Il faut s'assurer qu'une fois que les satellites sont dans l'espace, il y a une bonne cohabitation et qu'il n'y ait pas trop de risques de collision. Et que une fois qu'ils ont atteint leur fin de vie, qu'ils libèrent la place où ils étaient proprement. Et tout ça, c'est le début d'un très grand chantier. Nous devons nous engager pour un espace durable et responsable.
Et sur ces satellites, est-ce qu'on a des garde-fous nécessaires? Est-ce qu'on est sûr que depuis l'espace, on ne peut pas couper toutes les télécommunications sur Terre ou que depuis la Terre, on ne peut pas prendre le contrôle de ces satellites? C'est du James Bond, mais j'ai l'impression qu'on y est.
Alors, nous, encore une fois, le 24 décembre, ça sera du James Webb, et c'est d'abord un scénario qui est beaucoup plus beau que celui que vous évoquez, mais effectivement, il y a tous ces enjeux de cybersécurité, il y a ces enjeux d'un usage civil et pacifique de l'espace, il y a en même temps une dissuasion qu'on doit faire pour montrer aux autres qu'on saurait aussi être capable de répondre. Donc, l'espace est un immense terrain, il faut qu'il soit le plus possible un terrain de coopération.
Stéphane Israël, il y a encore beaucoup de chantiers. Le patron d'Ariane Espace, merci d'avoir accepté l'invitation du 7-9.
Merci.
France Inter.